Chapitre 18. Anna. Les voix colorées. L'horreur dans l'étang. Le cadran solaire, enfin. Une fâcheuse rencontre. 1. Anna était sans doute sortie dès la fin de la pluie pour savourer l'éclaircie. Elle occupait un énorme trône doré sous un dais à rayures bleues et blanches. Je devinais que le trône n'était pas en plaqué, et je doutais fort que les pierres précieuses incrustées dans le dossier et les accoudoirs soient en toc. Le roi et ou la reine d'Empis devaient paraître ridiculement petits perchés sur ce siège. Anna, elle, l'occupait entièrement, et ses fesses éléphantesques débordaient sur les côtés, entre les accoudoirs et les coussins couleur pourpre royale. La femme assise sur ce trône volé, j'en aurais mis ma main au feu, était d'une laideur cauchemardesque. De ma cachette, derrière la fontaine sans eau, impossible de déterminer sa taille avec précision, mais je mesurais 1,95 m, et j'avais l'impression qu'elle me dépassait d'au moins 1,50 m, même assise. Auquel cas, debout, elle devait faire dans les 6 m. Une authentique géante, autrement dit. Sa robe, de la même couleur pourpre royale que les coussins sur lesquels elle était assise, évoquait un chapiteau de cirque. Elle descendait jusqu'à ses mollets épais comme des troncs d'arbres. Chacun de ses doigts, aussi gros que ma main, s'ornait d'une bague. Elles étincelaient dans la lumière pâle. Si l'éclat du soleil s'intensifiait, elles s'enflammeraient. Des cheveux châtains foncés tombaient sur ses épaules et le raz-de-marée de sa poitrine dans un enchevêtrement de mèches grasses. Seule sa robe permettait de la ranger dans la catégorie des individus de sexe féminin. Son visage était un amas de protubérances et de furoncles infectés. Une fissure bordée de rouge fendait le centre de son front. Un œil était plissé, l'autre exorbité. Sa lèvre supérieure remontait jusqu'à son étordue, dévoilant des dents limées pour en faire des crocs. Pire encore, le trône était entouré d'un demi-cercle d'ossements, certainement humains. Radar se mit à tousser. Je me retournai vers elle et approchai ma tête de la sienne pour la regarder droit dans les yeux. « Chut, Fifi !» murmurai-je. « Je t'en supplie, ne fais pas de bruit !» Elle toussa encore une fois, puis s'arrêta. Sans cesser de frissonner, cependant. Au moment où je détournais le regard, elle se remit à tout sauter de plus belle. Je pense que Anna nous aurait découvert si elle n'avait pas choisi ce moment-là pour entonner une chanson.
« Mets-la moi, Joe chéri, mets-la où il faut, mon chéri. Mets-la moi, toute la nuit, mets-moi ton dard, mets-moi ton dard. »
J'avais dans l'idée que cette chanson n'avait pas été écrite par les frères Grimm. Elle poursuivit sur sa lancée, c'était une de ces chansons à boire qui ne se terminent jamais, et ça tombait bien car Radar s'était remise à tousser. Je caressais sa poitrine et son ventre pour tenter de la soulager, pendant que Anna continuait à exhorter son Joe chéri à ne pas avoir peur. Pour la rime, je m'attendais à « mets-la moi dans le postérieur », et elle beuglait encore lorsque les cloches de midi sonnèrent. Si près du palais, elles étaient assourdissantes. L'écho s'éloigna. J'attendis que Anna se lève et entre dans sa cuisine. En vain. Au lieu de cela, elle coinça un furoncle entre deux doigts sur son menton aussi large qu'une pelle et le pressa, faisant jaillir du pu jaunâtre. Elle l'essuya avec le talon de sa main, l'examina et le balança dans la rue. Après quoi, elle se rassit au fond de son trône. J'attendais avec angoisse que Radar se remette à tousser, car cela allait forcément se produire. Ce n'était qu'une question de temps. « Allez, chante, sale grosse truie immonde. Chante, avant que ma chienne recommence à tousser et que nos os aillent rejoindre ceux que tu ne ramasses même pas tellement tu es flemme. » Soudain, elle se leva. C'était comme regarder une montagne se soulever. J'avais utilisé une méthode de calcul simple, apprise à l'école pour estimer sa taille, mais j'avais sous-estimé la longueur de ses jambes. Le passage entre les deux parties de sa maison se dressait à 6 m du sol au moins, et pourtant, Anna serait obligée de se baisser pour passer dessous. Une fois debout, elle tira sur le tissu de sa robe coincée entre ses fesses et lâcha un paix monstrueux qui résonna un long moment. Cela me rappela un solo de trombone dans un des morceaux préférés de mon père, « Midnight in Moscow ». Je dus plaquer mes mains sur ma bouche pour ne pas éclater de rire. Au risque de provoquer une nouvelle quinte de toux, j'enfouis mon visage dans le poil mouillé de radar et laissai échapper une sorte de halètement étouffé. Mes yeux fermés, j'attendais que Radar recommence à tousser ou qu'une des énormes mains de Anna se referme autour de ma gorge et m'arrache la tête d'un coup sec. Comme rien ne se passait, je risquai un coup d'œil de l'autre côté du piédestal de la fontaine, juste à temps pour la voir se diriger d'un pas pesant vers la partie droite de la maison. Sa taille était tout bonnement hallucinante. Elle aurait pu regarder par les fenêtres du haut sans problème. Elle ouvrit sa porte, démesurée elle aussi, et une odeur de viande cuite s'échappa. Ça sentait le porc rôti, mais un horrible pressentiment me laissait penser que ça n'en était pas. Elle se baissa et entra dans la maison.
« À manger, espèce de nuque !»
gronda-t-elle.
« J'ai faim !»«
C'est à ce moment-là que tu dois agir, » m'avait dit Claudia, ou quelque chose d'approchant. Je remontai sur le tricycle et pédalai en direction du passage, penché sur le guidon comme un cycliste à l'arrivée d'une étape du Tour de France. Avant d'y pénétrer, je jetai un rapide coup d'œil sur ma gauche, là où se dressait le trône. Les os éparpillés sur le sol, de petite taille, étaient certainement ceux d'enfants. Sur certains, on apercevait encore du cartilage, et sur d'autres, des poils. J'avais eu tort de regarder. C'était une erreur que j'aurais aimé corriger, mais parfois, trop souvent, on ne peut pas s'en empêcher. N'est-ce pas ? 2. Le passage froid et humide, bordé de blocs de pierre couverts de mousse, mesurait environ 25 mètres de long. À l'autre extrémité brillait une lumière vive, et en débouchant sur la place, je verrais peut-être le soleil pour de bon. Eh bien non. Juste au moment où j'émergeais du passage, le nez dans le guidon, les nuages engloutirent la valeureuse petite parcelle de ciel bleu, et la grisaille uniforme revint. Ce que je découvris alors m'arrêta net. Mes pieds laissèrent échapper les pédales et le tricycle continua en roue libre avant de s'arrêter. J'étais à l'orée d'une immense place dégagée. 8 voies incurvées y convergeaient, venant de 8 directions différentes. Jadis, leurs pavés avaient dû être peints de couleurs vives, vert, bleu, magenta, indigo, rouge, rose, jaune, orange. Aujourd'hui, elles étaient presque effacées et je devinais que ces pavés finiraient par devenir aussi gris que tout le reste à Lillimar et dans une grande partie d'Empis. Ces courbes étaient comme les pales multicolores d'un moulin à vent pour enfants, un jouet qui aurait perdu son aspect joyeux. Le long de ces voies incurvées se dressaient des poteaux ornés de fanions. Il y avait des années de cela, combien ? Peut-être, claquait-il fièrement, agité par une brise qui n'était pas polluée par l'odeur de la pourriture et de la décomposition. Désormais, il pendait mollement, dégoulinant d'eau de pluie. Au centre de ce gigantesque moulin à vent trônait une autre statue de papillon. Les ailes et la tête étaient détruites, et les vestiges s'amoncelaient tout autour du socle. Derrière, une voie plus large conduisait à l'arrière du palais et aux trois flèches d'un vert sombre. J'imaginais les gens, les Empissariens, qui envahissaient ces différentes voies pour fusionner en une masse humaine unique. Ils riaient et se bousculaient joyeusement dans l'attente d'un divertissement imminent. Certains transportaient des pique-niques dans des paniers, d'autres s'arrêtaient devant des marchands ambulants qui vantaient leurs marchandises. Un souvenir pour le petit, des fanions, oui, bien sûr. Je voyais toutes ces scènes comme si j'avais été présent. Et pourquoi pas ? Moi aussi j'avais fait partie de ce genre de foule les grands soirs pour aller voir jouer les White Sox et même, un dimanche inoubliable, les Chicago Bears. À l'arrière du palais, cette partie-ci du palais car il s'étendait dans toutes les directions, j'aperçus des remparts de pierre rouge, circulaires, qui dominaient, bordés de très hauts poteaux qui semblaient coiffés de plateaux. Des jeux avaient été organisés en ce lieu, devant des foules enthousiastes, j'en étais convaincu. Les spectateurs avaient rugi de plaisir. Aujourd'hui, Les voies incurvées et l'entrée principale étaient désertes, hantées, comme l'ensemble de cette ville. Quand j'étais au CM2, on avait construit un château fort en Lego, en histoire. Pour nous, ça ressemblait plus à une distraction qu'à un cours. Mais rétrospectivement, on avait quand même appris des choses. Je me souvenais encore des noms de quelques éléments architecturaux et j'en reconnus certains en approchant du palais. Arc-boutant, tourelle, parapet, et même ce qui était peut-être une poterne. Mais à l'image de tout le reste à Lillimar, quelque chose clochait. Les escaliers montaient et descendaient sans aucune logique, et sans mener où que ce soit, pour autant que je pouvais en juger, autour et à l'intérieur d'étranges excroissances en forme d'amanite, percées d'étroites fenêtres sans carreaux. C'était peut-être des postes de garde, ou peut-être complètement autre chose. Certains escaliers se croisaient, me rappelant ces dessins d'écheurs dans lesquels vos yeux vous jouent des tours. Un battement de paupières et les escaliers paraissaient à l'envers. Un autre, ils étaient de nouveau à l'endroit. Pire encore, le palais dans son ensemble, dépourvu de toute symétrie, donnait l'impression de bouger, comme le château de Hurle. Même s'il m'était difficile de percevoir ce phénomène dans son ensemble visuellement ou mentalement, les escaliers étaient de différentes couleurs, à l'image des 8 voies du moulin à vent géant, ce qui peut vous paraître gai, mais il en émanait l'impression d'un être insondable, doué de sens, d'une créature intelligente, dotée d'un cerveau extraterrestre. J'avais conscience de me laisser emporter par mon imagination. Non, c'était faux, je n'en avais pas conscience. Mais je me réjouissais que les repères de M. Boditch m'aient conduit du côté du stade, car ainsi je ne me trouvais pas dans le champ de vision de ces fenêtres de cathédrale. Je crois que je n'aurais pas pu affronter leur regard vert. Je pédalais lentement en suivant la large voie qui menait à l'entrée. Parfois, les roues du tricycle heurtaient des blocs de pierre déplacés. L'arrière du château offrait une façade presque entièrement aveugle. Il y avait une succession de larges portes rouges, 8 ou 9, et un très ancien embouteillage de wagons de tramway, dont beaucoup étaient renversés et quelques-uns fracassés. Il était facile d'imaginer Anna provoquant ce chaos, sous l'effet de la colère, peut-être, ou juste pour le plaisir. Je devinais que je me trouvais dans une zone d'approvisionnement, que les gens riches et les membres de la royauté voyaient très rarement, pour ne pas dire jamais. C'était le chemin qu'empruntaient les gens ordinaires. Je repérais les initiales de M. Boditch, presque effacées, sur un des blocs de pierre. Je n'aimais pas rôder aussi près du palais, même du côté aveugle, car je le voyais presque bouger. Palpité. La barre du A pointait vers la gauche, alors je quittais la voie principale pour suivre cette direction. Radar toussait de nouveau, violemment. Quand j'avais enfoui mon visage dans ses poils pour étouffer mon fou rire, je les avais sentis mouillés, froids et emmêlés. Un chien pouvait-il faire une pneumonie? Question stupide, décidai-je. Toute créature qui possédait des poumons pouvait être victime d'une pneumonie. D'autres initiales me conduisirent à un alignement de 6 ou 8 arcs-boutants. J'aurais pu passer dessous, mais je choisis de ne pas le faire. Du même vert sombre que les fenêtres des tours, peut-être n'était-elle pas construite en pierre, mais en une sorte de verre. Difficile de concevoir que du verre puisse soutenir le poids d'un édifice aussi imposant, et pourtant, cette matière en avait l'apparence. Là encore, à l'intérieur, je distinguais des filaments noirs qui montaient et redescendaient en s'entortillant langoureusement les uns autour des autres. Face à ces arcs-boutants, j'avais l'impression de regarder une rangée d'étranges lampes à lave, vertes et noires. Ces vrilles animées me faisaient penser à plusieurs films d'horreur, comme Alien ou Piranha, que j'aurais préféré ne jamais avoir vus. Je commençais à me dire que j'allais effectuer un tour complet du palais et me retrouver, par conséquent, sous la triple attention de ces flèches lorsque j'arrivais devant un renfoncement, niché entre 2 murs aveugles qui formaient un V. Des bancs entouraient un petit étang ombragé par des palmiers. Incroyable mais vrai. Les frondaisons des palmiers masquaient ce qui se trouvait au fond de ce renfoncement, mais au-dessus se dressait un poteau d'au moins 30 mètres de haut, surmonté d'un soleil stylisé. Doté d'un visage et de deux yeux qui se déplaçaient de droite à gauche, pareil à ceux d'une pendule Kit-Kat. Sur la droite de l'étang, M. Boditch avait peint ses initiales sur une grosse pierre. Mais la barre de son A n'indiquait aucune direction. Pour une fois, la flèche de son A partait du sommet. J'entendais presque le vieil homme.
« Tout droit, Charlie, et ne perds pas de temps. »«
Tiens bon, radar, on y est presque. » Je pédalais dans la direction indiquée par la flèche. En l'occurrence, la droite du joli petit étang. Je n'avais aucune raison de m'arrêter pour y jeter un coup d'œil entre deux palmiers, maintenant que j'approchais de mon objectif. Et pourtant, je le fis. Et si terrible que soit la chose que je découvris alors, je m'en réjouis. Car cette vision changea tout. Même s'il me faudrait un long moment pour comprendre pleinement l'importance cruciale de cet instant. Parfois, on regarde afin de se souvenir. Parfois, ce sont les choses les plus affreuses qui nous donnent de la force. Je le sais aujourd'hui, mais sur le coup, je pensais « Oh, bon sang, c'est Ariel !» Dans cet étang, peut-être jadis d'un bleu apaisant, devenu trouble, terni par la pourriture, gisait la dépouille d'une sirène. Mais il ne s'agissait pas d'Ariel, la princesse de Walt Disney, fille du roi Triton et de la reine Athéna. Non, ce n'était pas elle. En aucun cas. Pas de queue verte étincelante, pas de beaux yeux bleus, pas de volute de cheveux roux, pas d'adorable petite brassière violette non plus. Cette sirène avait dû être blonde, mais la majeure partie de ses cheveux flottait maintenant à la surface. Sa queue avait peut-être été verte, mais elle avait pris une sinistre couleur grise, comme sa peau. Ses lèvres avaient disparu, dévoilant un cercle de petites dents. Ses yeux étaient des orbites vides. Pourtant, elle avait été belle. J'en étais sûr. Comme je savais que des cohortes joyeuses avaient déferlé ici pour assister à des jeux ou à des divertissements, elle avait été belle. Oui, vivante, habitée par une magie joyeuse et inoffensive. Elle avait nagé dans cet étang. C'était sa maison. Et les gens qui avaient pris le temps de venir jusqu'à cette oasis de poche l'avaient vue. Elle les avait vues, elle aussi. Et elle, comme eux, en avait été revigorée. Aujourd'hui, elle était morte. Une hampe de fer sortait de son corps, à l'endroit où sa queue de poisson devenait un torse humain et un entrelac de boyaux gris saillait de la plaie. De sa beauté et de sa grâce, il ne restait qu'un murmure. Elle était morte, comme tous les poissons qui étaient morts dans un aquarium. Et elle flottait, là, privée de ses couleurs gaies. Ce n'était plus qu'un cadavre hideux, en partie conservé par l'eau froide. Alors qu'une créature véritablement laide, Anna, continuait à vivre, à chanter, à péter et à ingurgiter sa nourriture infâme. « Maudit !» pensais-je. « Tous maudits ! Le mal s'est abattu sur cette terre infortunée !» Ce n'était pas une pensée signée Charlie Reed, mais c'était une pensée exacte. Je sentais monter ma haine envers Anna. Non pas parce que je la soupçonnais d'avoir tué la petite sirène, la géante se serait contentée de la réduire en bouillie, mais parce qu'elle était toujours en vie et qu'elle se dresserait sur mon chemin au retour. Radar se remit à tousser, si fort que j'entendais grincer le panier derrière moi. Je brisais l'envoûtement de ce cadavre pathétique et contournais le bassin en pédalant vers le poteau couronné d'un soleil.